Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
On va passer à la partie interview de toi, Salomé, peut-être. En premier, si ça te va, on va parler de griffer et de ton parcours. Et donc, est-ce que tu veux bien te représenter pour les personnes qui nous rejoignent peut-être maintenant dans ce live et pour les gens qui nous écoutent en podcast aussi?
Oui, donc comme je disais tout à l'heure, moi je suis historienne de l'art de formation, spécialisée en histoire de la mode. Et donc je travaille pour plusieurs maisons de mode, surtout maisons de luxe, en tant que consultante pour les accompagner dans tout ce qui est conservation et préservation, communication sur leur histoire, leur patrimoine. À côté de ça, je suis donc cofondatrice de la revue Griffée, dont on va sans doute parler un peu plus juste après.
D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée à faire à travailler dans la mode? Est-ce que c'est les études que tu avais faites? Tu avais fait tes études pour ça exprès?
Pas forcément, non. Bon, j'ai toujours été intéressée par le vêtement, la mode aussi, mais surtout le vêtement et les habitudes vestimentaires des gens. Ça m'a toujours un peu fascinée, même à l'école, au lycée, etc. Et non, c'est plus. C'est devenu une vocation, c'est ça le mot que je cherchais, plutôt quand je suis rentrée en histoire de l'art en licence à l'école du Louvre, qui est une école en fait qui propose un parcours qui est unique en France où on peut se spécialiser en histoire de la mode et donc suivre un cursus où on apprend l'histoire du vêtement, son évolution depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a fait un vrai déclic sur parce que en fait ça, le déclic c'était de comprendre que le vêtement était vraiment un reflet de notre société et que en fait moi j'ai jamais trop aimé dire que j'avais une spécialité, une époque que je préfère, parce que je trouve que ce qui m'intéresse c'est plutôt la mécanique qu'il y a derrière, c'est me dire si je m'intéresse à tel fait de mode, quel est le mécanisme social qui se cache derrière. Et du coup cette méthode tu peux l'appliquer à n'importe quelle période.
Après, pourquoi la mini-jupe par exemple?
Voilà, par exemple.
Pourquoi est-ce qu'elle surgit comme ça?
C'est une vraie question à laquelle je dois répondre.
Par exemple,
ça.
Si tu veux. T'as 4 heures, moi je rigole. Non mais oui, d'accord, je vois très bien ce que tu veux dire par la mécanique derrière les vêtements.
C'est ça.
Et justement, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de t'insérer professionnellement ensuite après des études d'histoire de l'art
C'est pas
dans la mode?
Non, c'est pas aisé, surtout que ça croise quand même deux milieux qui sont pas faciles d'accès, c'est-à-dire le milieu de la mode et le milieu de la culture. En plus, le principe d'avoir, parce que moi je ne travaille pas donc dans des musées, je travaille pas dans des musées de mode, je travaille pour des maisons existantes qui produisent des vêtements et on peut. C'est quand même un peu une évidence, je pense, pour tout le monde ici, c'est que c'est leur priorité, c'est pas le passé, c'est le présent, c'est voire même le futur.
Donc, ah bon?
D'essayer de faire valoir l'intérêt que les personnes comprennent hein, souvent, mais parfois il faut quand même se battre pour leur dire voilà, là, ce serait super que vous réunissiez vos collections passées et que vous fassiez de la vraie recherche et un vrai inventaire pour que ça soit mis très facilement à disposition.
Vos archives.
Oui,
mais sachant en plus que le plus souvent les directeurs artistiques ils vont fouiller, pardon, sachant en plus que le plus souvent les directeurs artistiques ils vont fouiller dans les archives des maisons pour faire des nouvelles collections. Je parle notamment de Chanel ou de Dior ou en fait on
partout voilà, okay. Ils font tous d'accord. Même les petits, les grands,
mais du coup
je pense que toi aussi tu sources
oui
enfin ouais. c'est normal en fait, c'est intéressant parce que je trouve que il y a beaucoup de avec des comptes comme Diet Prada etc, on a beaucoup parlé du fait de plagier, de recopier des choses du passé. Il y a des gens qui ont en effet plagié des choses, mais par contre il faut aussi savoir faire la différence entre une pratique qui a toujours existé, qui est l'inspiration, qui existe dans toutes les pratiques créatives et artistiques, et du coup moi mon travail c'est
l'hommage aussi.
L'hommage.
On peut aussi rendre hommage aussi à un créateur,
exactement,
ou une créatrice.
Et c'est
l'explicité
c'est l'admiration aussi que le
c'est des références.
A, en fait.
toute façon, un objet, à partir du moment où on même prendre le même objet et le mettre dans le contexte d'une autre époque, il prend forcément un autre sens parce que les gens le verront avec leur façon de voir les choses à une époque donnée. Donc moi, si je prends par exemple un objet préhistorique et que je le pose devant vous aujourd'hui, vous allez certainement pas comprendre la même chose que l'homme préhistorique qui l'a utilisé à l'époque. Et donc dans tous les cas, cette pratique, elle est enrichissante. Elle crée forcément quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que la pratique en tant qu'archiviste, c'est d'essayer de faciliter ce travail, en fait, pour les créateurs, c'est de leur dire, on va créer un vrai laboratoire organisé. Et potentiellement aussi rajouter des informations qui se sont perdues entre temps, essayer de les retrouver pour vous, comme ça le jour où vous vous intéressez à tel vêtement, moi je pourrais vous dire bah en fait c'était tel défilé où il y a eu telle inspiration, regardez, j'ai retrouvé le livre qui a inspiré, je sais pas, Karl Lagerfeld sur
C'est génial comme métier,
en fait. Ouais, mais c'est fascinant, en fait, parce que c'est une ressource,
c'est de l'archéologie
vestimentaire.
C'est souvent ce que je dis, d'ailleurs.
Il y a,
trop
ça, bien. Y a aussi la question que je me posais, c'est par rapport au fait que maintenant, aujourd'hui, on a une vision sur certaines collections qui, maintenant, on les voit comme problématiques. Et je me demande toujours à chaque fois, mais pourquoi ça n'a pas choqué avant? Pourquoi ça n'a pas été problématique avant? Pourquoi personne n'a rien dit avant sur des collections
Internet.
Qui ont eu, par exemple, l'appropriation culturelle par exemple, on entend beaucoup l'appropriation culturelle sur la table, parce qu'il y en a énormément. Et ça, je me suis toujours demandé, mais... Enfin, en tant qu'historienne, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Enfin, de cette vision-là, est-ce que tu la comprends, le fait que maintenant, aujourd'hui, les gens dénoncent le fait qu'il y a de l'appropriation culturelle, dénoncent le fait qu'il y a des choses problématiques qui ont été faites et...
Je pense que c'est deux phénomènes qui se croisent entre le fait qu'on a à disposition plus d'outils pour découvrir les cultures du monde.
Oui.
Et en plus de ça, voir en live tous les défilés et revoir ceux qu'on a ratés. Et tous les looks sont sur Vogue Runway, du look 1 au look 34. On peut les voir, on peut zoomer dedans. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un vrai feedback sur ce qui se fait dans les défilés. Mmh. Alors qu'avant, c'était quand même réservé à certains happy few. Ou si on prenait un magazine, on avait peut-être deux silhouettes qui étaient montrées dans le magazine. Donc, il y avait quand même une énorme perte d'informations pour le grand public.
D'accord.
Donc ça, c'est la différence aujourd'hui. C'est que tout le monde y a accès.
Avec les réseaux sociaux, etc.
Et je pense qu'il y a aussi une pratique aujourd'hui qui veut de pas toujours croire tout ce qu'on nous dit, qui est aussi dû à Internet, et de parfois aussi remettre en question certains discours, le discours des élites, la production des élites, ce qui est le cas notamment de l'industrie du luxe, et d'être un peu méfiant et d'avoir aussi souvent envie de râler. Je veux dire, Léa Mafouf qui se prend des remarques tous les jours de sa vie, c'est parce qu'aussi on aime bien dire qu'on n'est pas d'accord. En fait, on a Internet qui est aussi un outil qui permet de dire je suis pas d'accord. Peut-être que ces gens n'étaient pas d'accord avant chez eux, mais qu'ils n'avaient pas moyen de le crier sur les toits, qu'il n'y avait pas de magazine qui avait envie de les publier.
Plus facilement, c'est à double tranchant, effectivement, mais c'est intéressant et je pense que c'est très constructif dans une certaine mesure, évidemment.
C'est constructif, justement. C'est aussi intéressant de pouvoir se dire qu'on est aussi capable de... Enfin, qu'on a les outils qui permettent aussi de dire là où... Quand est-ce qu'on va trop loin, en fait.
Totalement.
Dans l'industrie, qui est l'industrie de la mode, qui, comme toutes les industries, va parfois aller trop loin parce que volonté de profit aussi.
D'ailleurs, tu parlais de avant, pré-internet, si on peut le dire grossièrement comme ça. Il n'y avait qu'une petite quantité de personnes, des happy few, qui pouvaient accéder au défilé. Et dans des magazines, on pouvait voir 2-3 silhouettes. Aujourd'hui, on peut tout voir sur Vogue Runway, avant style.com, que j'aimais tant.
Oui.
RIP. Eh bien, vous vous rappelez pas
style.com.
Il n'existe plus.
Non, ça n'existe plus.
Ça a été englobé par le Vogue Runway.
Après une période de longue latence. Bref. Et ben, aussi, en fait, les personnes qui étaient happy few à l'époque, elles avaient aussi tout un contexte qui leur permettait de comprendre le défilé. Bon, après, ça leur permettait pas forcément de comprendre dans quelle mesure c'était de l'appropriation culturelle ou pas, par exemple, mais aujourd'hui, les gens qui voient pas tout le monde, 2-3 silhouettes sorties de leur contexte sur Twitter, Instagram ou TikTok, ou en défilant en intégralité sur Vogue Runway, est-ce que ces personnes-là vont prendre le temps de lire la critique ou pas? Ou alors, si c'est vraiment 2 silhouettes sur Instagram ou sur Twitter, est-ce que ces gens vont comprendre le contexte dans lequel ça s'inscrit? Qui a créé ces vêtements-là? Ça, c'est plus rare aussi, j'en doute parfois, et ça pose des questions de... parfois, on accuse à tort des gens, mais intéressant d'avoir...
On a récemment accusé Jean-Paul
Gaultier d'avoir copié
lui-même.
Ça, c'était génial.
C'est lunaire, enfin, les gens...
Et le pire, en fait... Alors, moi, je pense qu'on a tous le droit effectivement d'exprimer notre mécontentement. Je suis sur les réseaux sociaux et moi-même parfois j'ai exprimé mon mécontentement, mais je trouve que Alors, les gens se retrouvent à être juges, à être police, juges, jurés, et en fait de décider d'un cas, enfin, et vraiment
d'une condamnation.
D'une condamnation, enfin, et vraiment, enfin. Alors, je pense que parfois, justement, un peu de nuance, un peu de recul, un peu de... Parce que, justement, en gros, on accusait Jean-Paul Gaultier d'avoir copié une autre marque.
Oui.
J'ai oublié son
nom. Qui s'inspirait de lui, en fait.
Je ne vais pas donner son nom, d'ailleurs, parce que... En fait, qui s'est inspiré de Jean-Paul Gaultier.
Bien sûr.
Et donc, en fait, quand Diet Prada a corrigé Diet Prada, Ideas of Couture et toutes les autres, et tous les autres comptes Instagram géniaux de la mode qui font vraiment la police et tout, et qui font seulement ce travail d'archives là, quand ils ont corrigé en disant par contre, en fait, cette marque là s'est inspirée de Jean-Paul Gaultier, en fait, les gens, ils ont fait volte-face et ils sont allés tomber sur l'Instagram de l'autre marque. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, alors.
C'était pas le but.
Ça, vous êtes vraiment vénère, les gars. Alors, et du coup, il faut absolument s'énerver. Non, mais en fait, et vraiment, c'était en gros, il y a eu un shift quand. Enfin, quand les posts de Diet Prada et de Ideas of Couture en fait sont sortis, les gens en fait ont complètement basculé leur haine ailleurs. Et là, je me suis dit, mais enfin, les mecs.
Mais c'est super, elle est hyper symptomatique. Cet épisode est hyper symptomatique. Je trouve que ça reflète bien aussi l'extrémité vers laquelle ça peut aller parfois aussi.
Oui, les dérives.
Trouver le truc qui...
La source, le premier, qui est-ce qu'il a fait en premier.
Oui, et moi, je comprends parfaitement les gens qui font des détox de réseaux sociaux parce que... Parfois, moi, typiquement, sur Twitter, j'y suis plus parce que je crois que je suis partie, je sais pas, pendant la première élection présidentielle de Macron.
Sinon, ça passera
j'en pouvais pas. Ah, ok, merci.
Il y a des gens vraiment...
J'y avais pas pensé.
Je crois pas forcément que le monde des bisounours...
Mais de toute façon, ça marche pas...
Bah en fait le problème c'est que...
Ok, non mais je voulais vous montrer justement l'histoire de l'imprimé seins nus dans la mode contemporaine, mais c'est un peu compliqué parce qu'on est sur Twitch, donc je vous envoie juste un article, voilà, l'imprimé seins nus de Vivienne Westwood, l'imprimé seins nus trompe-l'œil, illusion d'optique, de Vivienne Westwood à Jean-Paul Gaultier à aujourd'hui plein de gens qui rendent hommage à cet imprimé iconique, que ce soit Glenn Martens chez Wine Project, Olivier Rousteing chez Balmain, mais aussi Wine Project, enfin... Mais aussi Glenn Martens, une fois qu'il est invité par Jean-Paul Gaultier, et Olivier Rousteing, une fois qu'il est invité par Jean-Paul Gaultier. C'est difficile à suivre, je vous envoie l'article, vous allez pouvoir regarder par vous-même si ça vous intéresse. C'est passionnant, vous allez voir. Pour en revenir à toi, Salomé, et ton parcours, et à la question des archives, est-ce que tu as l'impression que les maisons comprennent de mieux en mieux l'intérêt de patrimonialiser leurs archives?
Complètement. Complètement, c'est aussi pour ça que je peine moins à trouver du travail aujourd'hui, je pense, que quelqu'un d'autre il y a 10 ans. Parce qu'en effet, ces 10 à 5 dernières années, beaucoup de maisons luxe ou parfois pas seulement du luxe ont vraiment monté, ont structuré un département d'archives. Alors potentiellement avant, ces archives existaient sur place parce que c'est une pratique qui se fait de toute façon d'aller chiner, d'aller sourcer pour des collections. Donc forcément ça se retrouvait stocké quelque part, mais auparavant c'était posé dans un entrepôt, dans un grenier, dans des boîtes, dans un coin du studio, etc. Et c'était pas réuni tout au même endroit. Et là, depuis quelques années, les maisons ont compris l'intérêt de pouvoir rendre plus accessibles ces sources d'inspiration, mais aussi de pouvoir l'utiliser derrière dans de la communication autour de l'identité de la marque, de son héritage, de s'inscrire dans un passé un peu plus lointain. Parfois, on a des vraies surprises. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec la maison Chloé, qui en fait est une maison qui existe depuis 1954. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que le grand public sait, parce que c'est pas une maison qu'on y met. Enfin, on garde pas forcément de souvenirs de cette période-là, comme on le fait pour Coco Chanel, par exemple. C'est une personnalité qui est tellement ancrée dans les années 20-30. Et du coup, il y a vraiment la volonté de créer un discours de marketing, en fait, mais à partir de son identité. Et puis, je pense que c'est aussi très symptomatique de la façon dont fonctionne l'industrie de la mode actuellement, avec ce principe du directeur ou de la directrice artistique qui se succède. Donc en fait, on a une maison qui est censée garder son nom, garder son identité.
Son ADN, son storytelling.
Exactement, avec pour autant un directeur ou une directrice artistique qui peut changer tous les 3 ans, parfois tous les 2 ans, au bout d'une collection, ça peut être terminé. Et comment est-ce qu'on garde le fil conducteur? Comment est-ce qu'on conserve son identité? Les archives sont aussi là pour ça. Et elles permettent à chaque nouveau ou nouvel arrivant de venir un peu comprendre l'essence et les codes de la maison pour pouvoir construire dessus, potentiellement, on imagine, quelque chose de nouveau quand même, mais garder le lien, quoi.
Oui, dans la mode, on dit souvent l'amour dure 3 ans entre la maison et le directeur artistique parce que les contrats durent souvent 3 ans. Mais parfois, c'est beaucoup plus court. Effectivement, je repense à cette tragédie qui a été les dernières années de la maison Lanvin, qui existe encore, qui est la plus vieille maison de haute couture qui est encore en exercice aujourd'hui. Albert Elbaz a été expédié. Après, il y a eu une période d'errance. Après, il y a eu Bouchra Gérard, mais elle a fait 2-3 saisons. Après, elle a été expulsée. Après, il y a eu Ted Lapidus ou Olivier Lapidus, je ne sais plus, mais c'était hyper rapide.
Ouais, mais le changement de directeur artistique, ça se fait beaucoup. Il faut toujours être là d'actualité, être au courant tout le temps des changements. Enfin, il y en a tellement.
Oui. Voilà. Là, il y a Issey Miyake qui est mort, on en parlait plus tôt, et plein de gens croyaient qu'il était encore à la tête de sa propre maison, que c'était encore lui qui signait ses collections, alors qu'il ne le fait plus depuis près de 20 ans. Quoi. Donc,
typiquement, Margiela, c'est qui le créateur?
John Galliano, actuellement.
Mais ils ont mis du temps avant de se fixer, en fait. Il y a eu des années de laps où ils n'ont pas voulu avouer que Martin était parti, d'ailleurs, pendant très longtemps.
Il y a aussi ce truc-là.
Petit point. Et aussi, Margiela, c'est un cas particulier, on va en parler, et d'ailleurs la revue Griffée en parle très bien, on va parler de la revue Griffée ensuite. Maison Margiela, c'est une maison qui voue une forme de culte à l'anonymat, en fait, et qui, ça fait partie de son ADN, de pas dire qui est à la tête de la maison et tout. Donc ça a été fondé par Martin Margiela, mais il est parti de cette maison il y a quelques années déjà. Elle a été rachetée par Only the Brave, le groupe qui possède Diesel et Margiela, du coup. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Margiela, c'est tout un collectif de créateurs et créatrices qui sont relativement anonymes. Le studio, souvent, défile soit avec un masque, soit justement, ils sont anonymes. Enfin, on connaît pas leur nom. Et c'est tout un culte de l'anonymat. Martin Margiela, quand il était encore en exercice, refusait les photos de lui. On pouvait filmer que ses pieds. Il y a vraiment, les interviews, en fait, c'était rarissime qu'il accepte. C'était soit à l'écrit, soit tu filmes ses pieds et c'est tout. Et voilà. D'ailleurs, maintenant, Demna essaye de faire la même chose, mais c'est une autre histoire. Oui, voilà. Et d'ailleurs, le fait même que ce culte de l'anonymat va jusqu'au rebaptême de la maison qui s'appelait Maison Martin Margiela. Maintenant, c'est Maison Margiela. Martin se retire quelque part, donc ça veut tout dire aussi. Mm-hmm. Et ça, vous en parlez très bien dans la revue Griffée, Salomé. Donc cette revue, est-ce que tu veux bien me parler de cette revue? Je vous envoie.
Oui, en fait, c'est un projet qui a pris naissance justement pendant le confinement. Juste avant qu'on soit confiné, j'ai rencontré Julien Sanders, dont je parlais au tout début, mais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est mon coéquipier sur cette revue, qui est expert en mode vintage. Donc voilà, on a la double casquette, lui sur le côté vintage et très mode 20e, et moi j'ai le côté archive, histoire de la mode. Et donc on a quand même tous les deux, dans nos deux métiers, dans nos deux pratiques, recours souvent à la griffe, à l'étiquette, pour dater un vêtement, parfois, et pour aussi lui donner un prix, pour l'authentifier, etc. Donc, un jour, Julien vient me parler pour me dire qu'il aimerait lancer ce projet fou de créer un dictionnaire pour faciliter ce travail de sourcing via l'étiquette pour tous les professionnels qui travaillent dans la mode, dans les archives, dans le vintage, etc. Donc au départ, on est parti sur un projet de folie qui était un dictionnaire, et on s'est rendu compte qu'on aurait 70 balais, qu'on aurait fait 5 marques et qu'on serait déjà en train de s'épuiser. Et bon, on s'est quand même lancé, on a commencé à faire des recherches et des collègues dans certaines maisons, et surtout avec la maison Margiela, qui nous a quand même très facilement ouvert ses archives. Et en faisant ces recherches, on a commencé à comprendre que ce qu'on voulait faire, c'était pas forcément un dictionnaire outil un peu rude, et aussi qui serait seulement destiné à un public très professionnel et un peu geek, mais plutôt ouvrir un projet de revue qui serait beaucoup plus grand public et qui nous permettrait en fait de raconter toutes ces histoires un peu folles qu'on a découvertes et inédite, qu'on a découverte en s'intéressant aux étiquettes, des histoires qu'on ne pensait pas en fait découvrir et qui changent surtout beaucoup des récits qu'on a l'habitude d'entendre soit de la part des marques, soit de la part même du milieu d'histoire de la mode, qui, quand bien même aujourd'hui c'est en train de changer, mais qui s'est très longtemps intéressé du coup à l'identité du directeur ou de la directrice artistique, des plus grands défilés, des plus belles créations, surtout beaucoup de luxe, voire de extrême luxe avec la haute couture. Et c'est vrai qu'on a rarement, on a l'impression que voilà, le monde de la mode, tout se fait comme par magie, qu'il y a une personne à la tête qui a une idée de génie et que clac, c'est fait. Et en réalité, l'étiquette, c'est le petit témoin discret caché dans la doublure qui permet d'aller comprendre quelles sont toutes les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver là, comment est-ce qu'on produit un vêtement, comment est-ce qu'on, si on communique dessus, parce que l'étiquette c'est à la fois une étiquette de composition, mais c'est aussi une griffe avec un logo qui évolue avec le temps, un logo qui se diversifie en fonction de la création de lignes, de licences. Et en fait c'est toute cette histoire très commerciale qui se raconte, qui nous intéresse énormément et qui est toute une histoire sur des maisons de luxe qui sont très connues aujourd'hui, mais tout un pan qu'on n'a pas encore abordé. Donc l'idée avec Griffé, c'était de créer une revue qui permettrait à chaque numéro de mettre en valeur une maison invitée, qui donc dans le premier numéro est la maison Margiela, et à côté tout plein de rubriques qui nous permettent aussi de travailler avec des auteurs et des autrices qui sont des personnes de profils très divers. Il y a des chercheurs, mais aussi des gens du vintage, il y a aussi des journalistes, il y a juste des passionnés qui ont envie d'écrire sur un sujet. Et donc dans la revue il y a toujours cette partie très geek qui est la chronologie d'étiquettes, parce que c'est notre point de départ, c'est en faisant cette collecte qu'on découvre des
je vais vous la montrer maintenant pour exactement. Les gens qui nous écoutent en podcast. Donc c'est une forme de frise chronologique avec plein d'étiquettes les unes sous les autres, avec à côté une légende qui explique de quelle année elle date, est-ce que ça appartient à une ligne, une collection spécifique ou une licence par exemple. Exactement. Et donc là en l'occurrence c'est les étiquettes de la maison Margiela.
Voilà. Et c'est en collectant ces étiquettes et en regardant les informations qu'on découvre des récits intéressants. Et alors pour la maison Margiela, on est parti jusqu'en Italie, parce que via les étiquettes de composition, on a découvert qu'il y avait des noms propres qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas maison Margiela, mais qui étaient des noms italiens, Fuzzi, Miss Diana, Denis Claire. On s'est dit, mais qui sont ces gens, quoi ? Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Qu'est-ce qu'ils font sur les étiquettes Margiela ? Et en faisant plein de recherches, en posant des questions, en interviewant des gens, on a compris que c'était donc le nom des usines de production en Italie. Parce que le prêt-à-porter fonctionne comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une idée, certes, qui sort du studio, mais derrière, ce sont les usines qui les produisent. Et ça se fait très généralement, voire presque systématiquement, en sous-traitance. Et on a de la chance avec des maisons de luxe, ça se fait très proche et ça se fait quand même beaucoup en Italie. Et donc, nous, on est partis en Italie rencontrer ces femmes, parce que ce sont donc que des femmes qui sont à la tête de ces usines à chaque fois, qui existent en général depuis les années 50 aux années 70, et qui ont travaillé avec les plus grands designers et plus grands stylistes qu'on connaît aujourd'hui, comme Martin Margiela, mais aussi l'une d'entre elles a beaucoup travaillé avec Jean-Paul Gaultier. Et elles nous racontent des histoires folles de comment est-ce que un truc aussi iconique que ces fameuses mailles seconde peau de Jean-Paul Gaultier qui font des effets tatouages, etc., qui sont hyper inspirantes aujourd'hui pour toute la nouvelle génération, comment elle a travaillé sur la réalisation de ces mailles qui sont hyper iconiques, et comment aussi le résultat est aussi évidemment le fait de la... du génie de Jean-Paul Gaultier, mais aussi de ses compétences techniques à elle. Et si... Et tu me diras, Nathalie, ce que t'en penses, mais ce qu'elle nous disait, c'est qu'en fait, hein, on peut avoir une super idée, mais si elle n'est pas bien réalisée, en fait, la collection, la marque ne perdure pas dans le temps. Et c'était très intéressant, parce que ça remettait en perspective le fait que ce qu'on voit défiler, c'est aussi toute cette collaboration avec des personnes dont on ne parle jamais et qui, pour autant, ont une expertise folle et qui ont un impact à la fin. Et si Jean-Paul avait travaillé avec une autre usine, le résultat aurait été potentiellement bon, mais en tout cas différent. Et donc ça, c'est le récit principal du premier numéro, où on est allé à la rencontre de ces femmes, notamment celle qui a travaillé sur ces mailles avec Jean-Paul Gaultier. Et c'est un peu le type de récit qu'on va aller raconter via les étiquettes dans Griffé.
D'accord. Et le premier numéro, il sort quand ?
Alors, on a fait toute une campagne de précommande au printemps dernier. Donc là, le numéro est actuellement en train d'être mis en page, finalisé par les graphistes. Ce que vous voyez, c'était des premières maquettes pour la campagne de précommande, mais on avait besoin de ces premiers sous pour pouvoir lancer la production. Et donc, en octobre, on reçoit on envoie les commandes qui ont été passées, plus potentiellement, enfin, on devrait dire, c'est sûr, des numéros supplémentaires qui pourront être acquéris auprès de la librairie Bonjour Jacob, qui est au métro Jacques Bonsergent dans Paris. Et on va donc faire un petit pot cocktail dans la galerie de Bonjour Jacob, pour ceux qui voudront. Ce sera le 20 octobre.
D'accord, bravo pour cette belle revue. Et du coup, vous savez déjà sur quelle maison sera invitée dans le prochain numéro ? T'as le droit de le dire ? Une petite exclue.
On pense qu'on sait ce qu'on veut faire. On sait que les personnes veulent travailler avec nous, mais tant que c'est pas acté, je préfère pas faire de déception parce que c'est possible que ça change.
Ok. D'accord.
Mais ça va être surprenant, a priori.
D'accord, ok.
Super.
Ah, mais je crois que c'est.
Ne vend pas la mèche.
Vous, c'est qui la maison dont vous rêvez de connaître la signification secrète des étiquettes?
Schiaparelli.
Schiaparelli?
Ah, oui.
Ouais. Ouais. Moi aussi. Du coup, dans le mille.
Mais moi, je sais même pas qui est-ce qu'il y a eu comme directeur artistique. Il y a eu Elsa Schiaparelli, la fondatrice. Il y a eu Hubert de Givenchy. Ouais. Et maintenant, il y a Daniel Rosberry. Entre temps, je sais même pas.
Bah, mais ça a fermé, c'est ça en fait.
Il n'y a eu personne.
Ouais.
C'est... Non, en fait, je crois qu'ils l'ont ressuscité dans la maison.
Avant Rosberry, il y a eu quelqu'un d'autre. Quand ils ont relancé la maison, ils n'étaient pas avec lui.
Mais ce qu'ils font, c'est.
Ça n'a pas fonctionné, non.
C'est de l'art.
Oui, c'est effectivement de l'art. La haute couture de Schiaparelli par Daniel Rosberry et tout le studio de petites mains qu'il y a derrière, de personnes formidables qui sont bien plus que des petites mains.
C'est de l'orfèvrerie du vêtement.
Mais je ne sais pas si elle est encore en cours, mais à Paris, aux arts décoratifs, là, il y a une exposition justement rétrospective sur le travail d'Elsa Schiaparelli, mis en regard avec le travail de Rosberry, qui est super.
Et même d'autres créateurs, il me semble. Il y a aussi des archives de Jean-Paul Gaultier qui s'est beaucoup inspiré d'Elsa Schiaparelli.
Il y a du Paul Poiret,
exposition.
Il y a de...
Oui, voilà.
Et beaucoup d'artistes aussi qui ont collaboré parce que avec Elsa Schiaparelli. Ouais.
Salvador Dali, Elsa Schiaparelli, la plus artiste surréaliste des créatrices de mode. Quoi. Donc, je viens de vous envoyer dans le chat ma critique de l'exposition Elsa Schiaparelli aux arts décoratifs.
On a parlé à l'émission précédente.
Effectivement, dans l'émission précédente. Merci, Sarah. Une mémoire vive. voilà. Est-ce que t'aimerais... C'est quoi la question qu'on ne te pose pas assez sur, autour de ton travail et de la revue Griffée?
Le temps, peut-être.
Le temps
de recherche, ouais.
Très clairement.
C'est-à-dire, combien de temps ça te prend de tout archiver?
Déjà, monter une archive d'une maison de mode, c'est un travail qui n'a pas de fin. c'est pas possible, c'est l'infini, c'est l'univers, c'est... Pff.
Mais c'est quoi tes terrains de recherche? Enfin, je veux dire, je sais pas moi si, je dis comme ça, hein, mais si typiquement la maison Chloé te demande de faire des recherches sur une collection qui date de l'ouverture de la maison.
Ouais.
Où est-ce que tu vas chercher les choses?
Ça, c'est une bonne question. Et aussi, quels sont les types d'archives qui sont conservés dans une archive?
Oui.
Parce que on va évidemment aller consulter les vêtements quand on les a. Mais dans une archive, il va y avoir donc des vêtements, mais aussi des photos de défilés, des lookbooks, des articles de journaux, des croquis, des échantillons.
De matière.
C'est des accessoires. C'est en fait tout ce qui a été produit par la maison à un moment, potentiellement même des documents administratifs. Et c'est une des ressources auxquelles on. Qui n'est pas très glamour, auquel on ne pense pas, mais dans lesquels on trouve des informations qui sont particulièrement intéressantes, et notamment dans le travail qu'on fait dans Griffée.
Des factures d'achat, ça peut être intéressant.
Et même des documents qui actent le dépôt légal d'un logo, d'une licence, d'une ligne secondaire, etc. Ça nous permet à nous de dater des choses d'une manière ultra précise, et c'est parfois le seul document qui nous permet de dater, en fait.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Nathalie, de... pardon.
Salomé, pardon.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Salomé, de tomber sur une archive au final qui est fausse?
C'est-à-dire qui est griffée Margiela et en fait...
T'as fait des recherches, t'es tombé sur une information, mais au final, elle est fausse.
Antidatée. Faut
toujours partir du principe que on peut rien affirmer de manière sûre. Moi, quand on est historien, on travaille avec plusieurs types de sources qu'on appelle à la fois des sources primaires, c'est-à-dire ce qui a été produit par les personnes à l'époque donnée, et les sources secondaires, c'est ce qui a été écrit sur cette époque donnée par d'autres personnes.
Okay.
Et ces deux types de sources peuvent mentir. Et c'est bien de pouvoir... Il y a des moments où on est quand même très sûr de soi et on peut affirmer des choses, mais je pense que c'est bien de rester toujours très humble par rapport à ce qu'on découvre et dans ce qu'on peut affirmer. J'ai pas envie de dire qu'on va toujours dire il serait possible que peut-être potentiellement, mais je pense qu'il faut toujours aussi garder à l'esprit que tout ce qu'on dit aujourd'hui pourra être mis en question à un moment, parce que moi je remets aujourd'hui en question certaines choses qui ont été dites avant, parce que on sait jamais, des nouvelles sources apparaissent justement qui viennent pas forcément dire que c'était faux, mais par contre qu'ils peuvent nuancer.
Oui, d'accord. En fait, l'histoire, c'est pas un fait, c'est une fabrication.
Complètement.
Méditer.
je vais me les mettre sur un c'est t-shirt.
Non, mais y compris l'histoire de la mode, effectivement, faire croire que telle maison a été la première à faire, je sais pas moi, des castings inclusifs, en fait, elle peut l'affirmer, mais
ah ouais,
ça se trouve, c'est
pas
vrai.
Alors, les gens qui disent toutes qu'ils sont les premiers à faire des choses.
Ouais, ouais. C'est fou.
Mais il vaut mieux l'annoncer, justement. Il vaut mieux annoncer qu'on est le premier. Parce que ceux qui
on
l'ont pas annoncé.
En termes de marketing, c'est sûr.
Bah oui.
Oui.
On fait partie des.
Toujours faire croire.
Ah non, on dit qu'on est le premier.
Et dans 10 ans, une historienne de la mode dira ah, regardez, Homol était la première marque à faire ci.
Ouais.
Le plissé, elle a inventé le plissé.
Ce serait un historien ou une historienne qui aura mal fait son travail.
Exactement.
On l'enverra chez toi.
D'accord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.